France Musique.
France Musique, les grands entretiens, Philippe Cassard.
Je m'appelle Nathalie Dessay, je suis née le 19 avril 1965 à Lyon et je suis chanteuse et comédienne.
Baroque, on a parlé des opéras français, on a parlé de tes rôles mozartiens, straussiens. Arrivent tout d'un coup deux grands rôles d'opéra italien, de bel canto. D'abord La Lucia de La Mer Mort, un de tes grands rôles que tu chantes à Chicago pour la première fois en 2003. Et puis, juste après la deuxième opération, La Somnambule de Bellini.
Oui, La Somnambule, je l'avais fait avant à Lausanne. Et puis ensuite, après l'opération.
Quel travail particulier sur cette musique-là, ces rôles-là?
Alors là, c'est toujours une question de style. Mais là, pour le coup, la voix est vraiment traitée comme un instrument. Donc, c'est l'instrument soliste de tout l'orchestre.
Comme un grand violoniste?
Ouais. Et donc, ça, c'est hyper plaisant parce qu'on est beaucoup plus en charge. Et c'est nous qui imprimons le mouvement, en fait. Et c'est ça qui est plaisant dans le bel canto, c'est que c'est vraiment... On est à la fois plus instrumental et c'est vraiment nous le leader, presque plus que le chef, ou avec le chef en tout
Alors
cas.
Alors ça donne une liberté.
Ben oui.
Et l'aspiration aussi.
Et j'ai adoré, par exemple, préparer ces rôles avec un chef comme Evelino Pido, qui est un vrai amoureux du bel canto.
Oui, parce que souvent on dit « Oh, les parties d'orchestre,
ben
c'est
oui.
pas... » Mais c'est faux.
Mais c'est faux. C'est extrêmement difficile.
Bellini, c'est sublime.
Ben oui.
Les accompagnements de Bellini ou de Donizetti dans Lucia.
Ils ont l'air très simples. Alors souvent, on prend ça par-dessus la jambe, hein, en tant qu'orchestre. Alors qu'en fait, si on veut le faire bien, il faut y mettre une attention, une concentration et une dévotion.
Un raffinement.
Et un raffinement. Et c'est ce qu'apportait quelqu'un comme Evelino, je trouve.
Mais quand tu les préparais juste avec un pianiste... Tu as reçu des conseils de,
ah oui.
je sais pas, de chanteurs ou de
chanteuses. Je suis allée voir Renata Scotto
à
New York. Et ça a été une très belle rencontre, par exemple.
Et, elle était bienveillante?
Elle était très bienveillante et de très bons conseils. Elle m'a aidée sur l'italien, elle m'a aidée sur la ligne de chant, sur le legato.
Elle chantait devant toi?
Oui, elle faisait des petites lignes où elle me disait le texte, par exemple la lettre de Traviata. Je lui ai demandé de me lire... la lettre de Traviata, parce que c'était important pour moi qui ne suis pas italienne, de voir comment une vraie italienne disait ce texte-là, par exemple.
Mais
elle m'a beaucoup parlé, elle m'a beaucoup parlé de l'ornementation et du phrasé bel cantiste.
C'est important pour une cantatrice qui était arrivée comme ça à ton niveau de carrière d'aller toujours devant des aînés se présenter, chanter, apprendre un rôle ou...
Oui, alors ça se fait beaucoup moins que pour les instrumentistes. Enfin, je ne sais pas comment font les autres. Peut-être qu'elles le font aussi, je ne sais pas. Mais moi, je trouvais que... pour ce répertoire-là, c'était important d'aller vers les Italiens, en tout cas. Et vers une grande chanteuse italienne. Et cette chanteuse que j'admirais aussi particulièrement.
Mais alors, par exemple, les rôles eux-mêmes, les histoires, les scénarios...
Oh, bah ça, c'est sans intérêt.
De Bellini...
Non, La Somnambule, ça n'a aucun intérêt. Mais c'est pas grave.
C'est la musique qui te guide.
Oui, c'est la musique, c'est la mise en valeur de la voix, de la belle voix.
Mm.
Et le public, quel a été ton rapport depuis le début? Parce qu'on remporte tout de suite des grands succès quand on chante ces rôles-là, même à 25 ans ou 29 ans. Quelle a été ta relation avec ce public-là? Le public de l'opéra, le public qui applaudit la prima donna.
Toujours quelque chose d'ambivalent. C'est-à-dire, oui, ça fait plaisir d'être applaudi, d'être aimé. Et c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier. Hein. On a beau dire que non, mais en fait, oui. Donc, on est content de ça, de cette reconnaissance. Et en même temps, il y a quelque chose de trop. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça n'est pas que gratifiant pour moi. C'est suspect aussi.
Ça n'amène pas une pression supplémentaire ?
Si, bien sûr, aussi.
Parce que tu le sais, le public, les lyricomanes, les lyricophiles, ils sont à l'affût de la note aiguë, aiguë, de la fausse note, de...
Oui, mais ça, c'est une toute petite partie. La grande majorité du public vient pour être ému et vient pour ressentir quelque chose de fort. Et l'opéra, en fait, c'est ce qui est beau à l'opéra, c'est que ça, comme c'est quelque chose qui vous arrive comme ça, dans la figure, dans les oreilles, dans le cœur, sans aucun filtre, puisqu'il n'y a pas d'amplification, on est en acoustique. C'est quelque chose qui parle au pulsionnel. Et donc, il faut accepter cette chose. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal avec ça aussi.
Pourquoi ?
Parce que moi, je suis frustrée de ne pas être une intellectuelle. Et moi, je veux parler à l'intellect aussi. Et c'est pour ça que j'aime tellement le théâtre.
Mais qu'est-ce qu'un intellectuel ou une intellectuelle pour toi ?
C'est quelqu'un qui a un rapport spécial avec les mots. Or...
Mais tu es une lectrice.
Oui, bien sûr.
Tu aimes la poésie.
J'aime la poésie, j'aime la littérature. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je me sens beaucoup plus en phase avec qui je suis au théâtre. Parce que j'ai un rapport aux mots qui est bien différent de celui que j'ai ou que j'avais à l'opéra. Non pas que ça ne m'intéressait pas, au contraire, moi j'ai toujours eu beaucoup de scrupules à dire les mots le mieux possible à l'opéra, tout en sachant que globalement on ne comprend pas tout, et que dès qu'on monte dans l'aigu, on déforme les voyelles, et que donc y a toute une partie du texte auquel on ne peut pas avoir accès. En tant que spectateur, auditeur, je veux dire.
Est-ce que tu n'as pas un fond, parce que je te connais un peu maintenant, un peu un fond, non pas autodestructeur, mais un peu masochiste ?
Ah si, ben on ne peut pas être autre chose que masochiste quand on veut, comment dire, descendre dans l'arène, en fait, en tant que chanteur d'opéra.
Mais tu le sentais, ça, tu le ressentais très fort, l'idée de descendre dans l'arène,
oui,
cette sensation.
Oui, je ressentais très fort le fait qu'il fallait aller comme à la guerre. Moi, j'allais à la guerre, en fait.
Mais à la guerre contre qui ?
Contre moi. Et c'est fatigant.
Mais tu sortais des représentations, sinon heureuses, du moins relatives...
Soulagées.
Soulagées.
Soulagées. Je ne peux pas dire heureuse, oui, je ne peux pas dire fière... Oui.
Aller à la guerre, c'est pas heureux.
Non, c'est pas heureux d'aller à la guerre.
Et pourtant, tu avais la réception du public qui
était, en général, tout le temps, extrêmement gratifiante,
oui, comme tu l'as dit.
Mais quand on va à la guerre contre soi, on perd quasiment toujours. Donc c'est aussi ça qui est compliqué.
C'est une des raisons pour lesquelles tu as finalement arrêté l'opéra ?
Oui.
Donc vers 2012-2013, tu as dit, voilà, c'est fini.
Ça faisait quelques années déjà que j'étais malheureuse d'aller travailler, que je ne m'y retrouvais plus, que je trouvais que le corps ne répondait plus comme je voulais aussi, que je ne savais pas comment faire et que j'avais plus la foi, en fait.
Oh,
J'avais plus la foi dans ce métier et dans cette façon de chanter.
Mais est-ce que, par exemple, un metteur en scène comme Jean-François Sivadier, qui t'a si bien mis en scène dans La Traviata, pas justement susceptible de te faire continuer ce métier?
Oui, ça a été aussi une étape importante, même si c'était vers la fin. C'était en 2011 à Aix. Ça a été une très très belle expérience.
C'était jusqu'au boutiste de ta part d'aborder La Traviata.
Oui,
quand même.
C'est-à-dire que c'était un rôle qui est absolument pas pour ma voix, qui est bien au-delà de mes capacités, mais ce n'est pas très grave. Je regrette pas du tout d'avoir voulu jouer ce rôle et surtout d'avoir eu la chance de rencontrer Jean-François et de l'avoir fait aussi avec Louis Langrée, qui a été aussi un chef qui a compté dans mon parcours, puisqu'on avait fait Hamlet ensemble. Et on se retrouvait pour Traviata, donc j'en étais très heureuse.
Mais c'est tout ce que tu aimes à l'opéra, ce genre de travail.
Oui, oui, bien sûr.
La mise en scène, les décors, les costumes, le chef, l'orchestre, les répétitions, le travail,
oui,
l'intelligence
travail,
du metteur en scène.
Le travail de l'acteur aussi, le travail de l'acteur à l'opéra.
Il y a un documentaire qui en atteste.
Ah oui, c'est magnifique. Traviata et nous.
Mais là, on peut dire vraiment c'est le lâcher-prise de Nathalie Dessay.
Oui et non, parce qu'en fait, c'est drôle. Quand Philippe Béziat est venu nous trouver, Jean-François et moi, pour faire ce documentaire, moi, je lui ai dit, écoutez, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des documentaires. Me demandez rien. Vous faites votre film, mais moi, vous faites comme si je n'étais pas là. Sauf que c'était difficile, parce que c'est moi qui avais le rôle de Traviata. Mais il a respecté ça. Il a fait un film magnifique. Oui. J'allais dire... envers et contre moi. Mais peut-être à cause de ça, d'ailleurs, aussi.
Musique, les grands entretiens de Nathalie Dessay.
Et la décision vraiment d'arrêter, de rompre avec ce milieu qui t'avait fêté pendant quasiment un quart de siècle, elle a été prise un jour particulier. Tu t'es dit un jour,
oui.
Allez,
oui. Ça couvait déjà depuis un certain temps et il y a eu 2-3 productions où je me suis sentie tellement déphasée. Qui du coup se sont mal passés, mais j'allais dire, par ma faute. J'étais vraiment en état de faiblesse. Et donc j'ai donné l'occasion aux autres de foncer dans la blessure.
Mais enfin bon, à Bastille, la Manon proposée par Colline Serrault était simplement une horreur.
Oui,
enfin.
C'était pas bien, mais il y avait objectivement aucune raison de le prendre comme ça. Enfin... J'aurais pu être beaucoup plus cool avec ça, malgré tout, et je ne suis pas arrivée. Et ensuite, il y a eu une autre production, au Met, de Jules César, qui était une magnifique production, d'ailleurs, de David McVicar, où ça s'est très très mal passé avec lui aussi. Mais où j'ai tendu le bâton pour me faire battre, en fait. Donc, bien fait pour moi.
Parce que tu te rebiffais ou
non,
tu,
non,
tu
c'est parce que j'étais dans un tel état d'insécurité qu'il l'a tout de suite senti et ça l'a poussé à me mettre encore plus mal que je n'étais. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sentent que l'autre est faible et qui l'achèvent, qui veulent l'achever, quoi. Et donc j'étais dans cette position victimaire, horrible.
C'était de l'humiliation aussi, d'une
oui,
manière.
Oui, 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 aussi. Bon, donc je me suis dit, là, ça, c'est plus possible. On ne peut pas faire ce métier dans cet état-là. Et donc c'est là que j'ai décidé d'arrêter.
Est-ce que l'avenir avec le théâtre se dessinait même en filigrane à
oui.
ce moment-là?
Oui, c'est-à-dire que c'était quand même un désir que j'avais depuis très longtemps. Et j'avais toujours dit, même quand j'avais commencé à chanter, autour de 50 ans, j'arrêterai, parce que de toute façon, les rôles pour les sopranos légers, c'est pas des rôles de vieilles, hein, donc voilà. On peut pas, enfin pour moi, on peut
tu
pas chanter
pas faire la
Juliette
de,
à 50 ans. Hein.
La conteuse de la Dame de Pique, quoi.
Voilà, c'est ça, mais sauf que là, c'est encore moins pour ma voix, c'est dommage. Donc du coup, oui, j'avais envie d'autre chose, d'autres horizons. J'avais envie de revenir à la littérature, aux mots, au théâtre, à une marge de manœuvre aussi, une marge créatrice plus grande. Et donc, il fallait changer de vie.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror there. Who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me.
Alors depuis maintenant un peu plus de 10 ans, la musique, elle n'est pas absente
ah
de
non.
ta carrière.
Elle ne sera jamais absente.
Et jamais. Et quand je dis la musique, on pourrait mettre les musiques.
Oui.
Parce que si simplement j'égrène les noms de Michel Legrand, de Stephen Sondheim, de Claude Nougaro, les 110 récitals de mélodies et leaders que nous avons donnés dans le monde entier, comment on arrive à être sur tous les fronts comme ça?
Il y a eu des rencontres importantes, notamment une rencontre avec Jacques Vincey, qui est le premier qui m'a donné ma chance, avec un monologue super dur de Howard Barker, donc, qui s'appelle Hunt, et qui est, pendant 1h15, une femme seule qui attend son propre anéantissement, en fait.
Howard Barker, c'est un auteur vivant, britannique,
oui.
qui est venu assister
oui.
aux représentations. C'était à Tours,
entre
comme,
autres.
Comme oui. par hasard dans le théâtre Olympia.
Oui, c'est ça. Ça, c'est drôle quand même.
Et j'ai envie de dire que tu as eu autant de chance avec cette pièce-là, qui t'a lancé, qu'avec Olympia en 1992,
Absolument.
Avec José Van Damme et mise en scène par Polanski.
Absolument.
Enfin, c'est quand même
oui, oui,
tout ça au théâtre Olympia.
Tout ça au théâtre Olympia. Et j'ai même fait l'Olympia avec Michel Legrand.
Leur chant toujours, cela donnait à l'ensemble une certaine beauté, disait-il. Et quant à l'horizon, disons l'horizon, faute d'un meilleur mot, l'horizon montait et descendait sans cesse en fontaine, en geyser, liquide, volatile, bouillant, bouillonnant, dans des flots de chaleur, dans une avalanche de nuages toxiques, de bile livide et de vert de gris, cela donnait à l'ensemble une certaine beauté, disait-il. Dans ce paysage, il s'est avancé, 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 il n'a pas couru et face aux obstacles, il a levé la jambe pour enfoncer la semelle de sa botte dans le sol sans se courber ni tourner de côté, son profil effilé, la chemise déboutonnée, une casquette sur la tête, une canne dans une main et rien, rien, rien dans l'autre qu'il laissait ballante à ses côtés, les doigts tranquilles à la verticale comme si...
Ce spectacle est quand même magnifique.
Oui, et la scénographie tout à fait saisissante avec des pains de glace qui fondaient au fur et à mesure de la représentation et qui tombaient tout autour de moi comme autant d'obus de manière aléatoire. Donc plus il faisait chaud, plus il tombait tôt d'ailleurs, et il fallait que je réagisse quel que soit l'endroit du texte où j'étais. Et c'était une scénographie, je me souviens, de Mathieu Laurie Dupuis, donc un scénographe extrêmement talentueux. Et je me souviens que quand il nous a présenté la scénographie, j'ai su que ça allait marcher. Alors que jusque-là, j'étais quand même très angoissée par...
Intimidée ?
Ben oui, parce que je me disais, mais je ne suis pas assez forte pour porter ce texte. Il faudrait avoir de l'expérience, j'en ai pas. Et comment ça va être reçu ? Est-ce que les gens ne vont pas s'endormir ?
Mais Jacques Vincey, il te connaissait comment ?
Jacques Vincey, il me connaissait parce que je pense qu'il m'avait vu à l'opéra. Et puis parce que j'avais été voir une de ses mises en scène des Bonnes de Jean Genet, avec Marie-Lou Marigny, entre autres... et Hélène Alexandridis, et que j'avais adoré, et je lui avais dit que j'avais adoré sa mise en scène, et que s'il pensait un texte pour moi, j'adorerais travailler avec lui.
Et alors, comment ça s'est passé, cette relation avec le metteur en scène qu'il était? C'est-à-dire, est-ce que tu es arrivée blanche comme neige avec le texte su par cœur.
Non, le texte, on l'a appris petit à petit, parce que c'est un texte très difficile.
Vous l'avez appris ensemble.
On se disait, bon, tu apprends 5 pages pour telle date, et là, on faisait 3 jours de résidence. Et après 5 autres pages, 3 mois plus tard, on a avancé comme ça sur toute une année, petit à petit.
Mais toi, tu avais déjà un regard sur le personnage ?
Moi, j'avais rien du tout. Moi.
Rien du tout ?
Non.
Tu comprenais la pièce ?
Je comprenais rien du tout. Quand j'ai lu le texte la première fois, je me suis dit, je ne comprends absolument rien, mais j'adore.
À cause du mystère de ce personnage ?
À cause du mystère, à cause des thèmes abordés. Par exemple, la judaïté, la mort imminente, la menace, la domesticité, le masculin, le féminin, et beaucoup, beaucoup de choses qui m'intéressent, en fait. Et comme c'est une écriture très poétique, ça ouvrait sur un champ de possibilités immense, quoi.
Et j'imagine, alors que tu as découvert, enfin tu savais déjà, mais le tempo du théâtre, contrairement au tempo de la partition.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est l'acteur qui est maître du temps. Et là aussi, ça m'intéressait d'être leader, quoi, d'être le chef, finalement.
Est-ce qu'on apprend à respirer différemment ?
Ben, on apprend et on se rend compte qu'en fait, on se dit « Oh, ben, je vais parler, ça va être facile, j'ai pas besoin de respirer. » Et souvent, on arrive au bout des phrases complètement hors d'haleine parce qu'on a oublié de respirer, alors que c'est exactement la même chose.
C'est une autre technique, cela dit.
C'est une autre technique, mais il faut quand même respirer avant de parler. Comme avant de chanter.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe, la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessée mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage, 200 briques. Somme toute, ça pouvait aller, mon esprit se mit à cavaler sur. Était ma plan que je suis usée et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la Turte. Il veut pour Beck jouer comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond, je pris le récepteur. Allô, c'est Suzy, ça fait 2 fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a ? Y a un quart de flic au coin de la rue, je restais sans voix, j'étais foutu. Il faut que tu files, me dit-elle, descends pas, sauve-toi par les doigts. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, encore des flics. C'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue des Colises. Et c'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Haletant la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. À 3 pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus. Mais tant pis, je suis sortie. Et tout de suite je les ai vus. 4 flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living. J'y suis entrée.
De Claude Nougaro, nous écoutions la chanson À bout de souffle, chantée par Nathalie Dessay et arrangée par mon homonyme Yvan Cassard. Ainsi se referme ce 4e épisode des Grands Entretiens de Nathalie Dessay, une série proposée par Philippe Cassard et réalisée par Françoise Cordet. Le podcast est disponible sur l'appli Radio France.
Saisie par le bras, je me retournais. Suzy était là toute pâle, elle me souriait. De nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle me dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici. Nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué.
À réécouter sur francemusique.fr.